Je vous invite à lire ou à suivre la lecture d'un court épisode dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, une des nombreuses guérisons d'aveugles qu'il a opérées. C'est un récit qui est rapporté uniquement par Matthieu au chapitre 9, les versets 27 à 31. Matthieu 9, 27 à 31. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays tout entier. Une personne aveugle avait demandé un jour à saint Antoine de Padoue, pour qu'il n'y ait pas de confusion, « Y a-t-il quelque chose de pire que perdre la vue ?» Et le saint lui a répondu « Oui, perdre la vision. » Et c'est cette idée, suite à cette anecdote que Marie-Hélène m'a rapportée vendredi soir, que j'ai intitulée cette prédication « De la vue à la vision ». Mais en même temps, le travail était préparé par le message d'Étienne dimanche dernier. À deux reprises, j'y fais bien attention, il a employé l'expression « une vie transformée ». Et j'ai trouvé que dans ce récit, qui correspondait d'ailleurs à ma lecture personnelle de la Bible juste quelques jours auparavant, ce récit cadrait parfaitement bien avec ce qu'est une véritable transformation. Pour mesurer l'ampleur d'une transformation, il faut voir l'état d'une chose avant et la revoir après. Quand vous avez un morceau d'argile informe et que quelques heures après, le potier l'ayant manipulé, il en sort un beau vase, vous voyez l'ampleur de la transformation qu'il a opérée. Et ceci est vrai pour quantité d'autres choses. Et dans ce récit, je voudrais m'attarder d'abord à décrire un peu la condition initiale de ces aveugles, avant d'arriver à l'émerveillement de leur guérison. Alors, je l'ai dit, des histoires d'aveugles, il y en a plusieurs dans la Bible. Et chaque fois, le Seigneur agit autrement. Des fois, il ne fait que prononcer une parole, des fois, il touche les yeux, des fois, il laisse même l'impression d'avoir une guérison imparfaite, incomplète, mais ce n'est pas le cas. À d'autres moments, il donne le but d'une guérison. C'était le cas de l'aveugle, de l'homme né aveugle. Et vous allez voir que les gens, encore à l'époque, soupçonnaient que cette infirmité était due à quelque péché, à une sorte de malédiction qui pouvait peser sur le malade. Celui-ci, ce récit, est l'un des plus courts et il illustre, selon moi, très bien la métamorphose qui peut s'opérer dès lors qu'on est au contact de Jésus-Christ, moyennant un minimum de conditions, vous allez le voir. Parce que être au contact de Jésus-Christ, lire la vie de Jésus-Christ, ne suffit pas pour être transformé. Judas a vécu des années au contact de Jésus-Christ et il n'a pas été transformé. Les pharisiens, en grand nombre, ont côtoyé Jésus-Christ, sont allés au-devant de lui, l'ont questionné. Eux non plus n'ont pas été transformés. Pilate même, qui a entendu des paroles sublimes de la part de Jésus, ne les a-t-il pas crues, comprises ? Toujours est-il qu'il n'a apparemment pas été transformé comme l'ont été ces aveugles ou des paralysés ou d'autres malades. Il y a donc quelque chose de différent dans la manière dont il faut aborder le Seigneur Jésus-Christ. Soyons aussi prudents. La transformation, je dirais même la métamorphose qui s'est opérée chez ces deux aveugles, aurait pu être encore plus belle. Ils ne sont pas devenus parfaits après avoir retrouvé leur vue. Et tous ceux qui ont connu la transformation par l'Esprit de Dieu ne sont pas parfaits non plus. Que d'égarements, que d'erreurs nous commettons et que des hommes remarquables comme Pierre, comme Paul ont pu commettre malgré leur rencontre décisive avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais rapidement brosser un tableau de la condition d'aveugle avant que Jésus ne leur ait ouvert les yeux, avant qu'ils aient rencontré le Seigneur. Et je serais enclin à vous poser une petite question. Essayez de rester aveugle, complètement aveugle, pendant une heure. Pas la nuit, évidemment. Mais le jour, quand vous devez vous déplacer, aller au travail, lire le courrier, faire la cuisine, faire du ménage, conduire. Et vous comprendrez tout de suite, rien qu'au bout d'une heure, le caractère tragique, la vie tragique que pouvaient mener les aveugles en ce temps-là. Vous n'êtes donc pas étonné ni surpris que ces hommes se retrouvaient souvent aux portes des villes, pas dans la ville. D'abord, les risques étaient plus grands. Et puis aux portes, il y avait beaucoup de monde. Il y a des gens qui rentraient, qui sortaient de la ville et qui pouvaient leur donner la pièce. C'était des gens exclus de la société, privés d'un minimum de savoir. Et là, j'ai envie de dire bravo Louis Braille, qui a quand même ouvert les portes du savoir, un minimum de savoir et parfois d'un grand savoir. À des aveugles. Ces aveugles souffraient souvent d'un jugement injuste. Rappelez-vous le cas de l'aveugle né. Ses disciples qui ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui ou ses parents, pour être né aveugle? A-t-il commis un péché particulier? Jésus va dissiper ce malentendu. Non. Leur cécité n'était pas due à un péché particulier. Alors ces aveugles dont nous allons parler, aux portes d'une ville, méprisés parce qu'on les soupçonne, eux ou leurs parents, d'avoir commis quelque chose de grave, sont réduits aussi à la mendicité, c'est-à-dire à la pauvreté. Il n'y avait pas d'assurance handicap au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut presque du courage pour mendier et survivre. De plus, ces hommes étaient enfermés. Si vous essayez de rester les yeux fermés quelque temps, vous êtes tout seul. Vous êtes enfermés, vous êtes en prison. Et tous ceux qui les côtoyaient n'étaient pas des anges. Il y avait aussi des malfaiteurs qui s'en prenaient aux aveugles. On rencontre encore des gens malveillants qui se plaisent à mettre des pièges, des embûches pour faire tomber des aveugles. Ils connaissaient donc beaucoup de dangers. Et même ceux qui n'étaient pas méchants à leur égard n'étaient pas forcément généreux. Il y avait beaucoup d'avarice aussi en ce temps-là. Il devait subir tout cela, supporter tout cela. Et bien sûr, la solitude. Une grande solitude. Rarement dans leur famille, rarement entourés d'amis autres que des amis aveugles. Un avenir non assuré. Au jour le jour, ils devaient se demander « Est-ce que demain j'aurai de quoi manger ?» Et puis en supposant même que ces aveugles aient eu l'occasion de suivre avec la foule le Seigneur Jésus-Christ et entendre certains de ses sermons. Jésus n'était pas tout à fait un inconnu pour eux. Ils savent qu'il est le fils de David. Ils ont probablement entendu des choses de lui ou sur lui. Mais quand Jésus, dans ses sermons, dit « Voyez les lys des champs », pouvait-il voir les lys des champs ? Regardez les oiseaux du ciel. Pouvait-il regarder les oiseaux ? Une partie de ce que Jésus disait leur était cachée, voilée, en tout cas incomplet. Et c'est pourquoi, je dis dans le résumé, ils avaient accès à ce qui était audio, mais pas ce qui était visuel. Ils étaient privés d'une source, d'une part importante d'informations dont nous jouissons tous aujourd'hui, l'audiovisuel. Ces aveugles sont pleinement conscients de leurs conditions. Ils le savent. Comment l'aurait-il ignoré ? Mieux que ce que je viens de décrire, ils sentaient leur misère, leur détresse, et ils en souffrent. Et c'est pourquoi leur cri de détresse est authentique. Ils s'adressent au Seigneur Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Je ouvre une petite parenthèse. Je viens de parler de la cécité physique, corporelle, biologique. Mais il y a aussi d'autres aveugles. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ? Et Jésus en a rencontré. De ceux qui se voilent la face, de ceux qui ferment les yeux, ceux qui entretiennent l'ignorance. Jésus a parlé d'aveugles spirituels qui conduisent des aveugles, qui se prennent pour des guides d'aveugles, qui enseignent sans avoir la connaissance et donnent des conseils sans avoir l'expérience. Et ceux qui, en dépit de l'évidence, vont affirmer des choses horribles quand Jésus chasse des démons et qu'ils vont dire « c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons ». Et eux ont les yeux ouverts pourtant. Mais manifestement, ils ne veulent pas voir. Ils se cabrent pour ne pas voir et trouver des faux raisonnements devant la vérité, devant l'évidence. Il y avait et il y a encore le refus délibéré de l'évidence. Et puis il y a sans doute ceux que vous connaissez, ceux que vous rencontrez, ceux qui refusent d'emprunter le sentier de l'expérimentation. C'est peut-être une des plus belles démonstrations quand les premiers disciples de Jean-Baptiste ont vu passer Jésus-Christ. Ils lui ont dit « Où habites-tu ? Où vas-tu ? » Et Jésus leur a dit tout simplement « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Et lorsque Philippe a rencontré Nathanaël, il a dit, il voulait lui parler du Seigneur. Finalement, ça s'est résumé à deux mots. « Mais viens et vois. Viens et vois. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre ton cœur. » Je reviens à ces deux aveugles. Ils ont poussé un cri de détresse, d'angoisse profond. Seigneur, aie pitié de nous. Je ne crois pas qu'on puisse lui redonner l'intonation que eux lui avaient donnée à ce cri. Et pourtant, quelle déception ! Jésus ne réagit pas. En tout cas, dans cet épisode, n'en faites pas une règle générale, mais ici, il semble que Jésus n'ait rien dit et qu'il ait continué son chemin. Et ce n'est qu'arrivé dans la maison qu'il va les interroger, qu'il va les mettre sur la piste de la guérison et qu'il va les guérir. C'est quelque chose de terrible pour ces aveugles de poser une question et de ne pas obtenir de réponse. Ça me rappelle un autre récit, la femme cananéenne ou syrophénicienne, dont la fille était tourmentée et qui vient trouver Jésus. Et dans la version que donne Matthieu de cette rencontre, Jésus ne dit rien. Silence. Comment l'interpréter, ce silence? Il n'est pas sourd, Jésus. Est-il indifférent? Est-il si dur que cela pour nous laisser tomber, nous laisser de côté? Je suis réduit à ne faire que des hypothèses. En tout cas, je sais que Jésus a entendu. Et Jésus éprouve peut-être le sérieux de la demande parce qu'il ne veut pas passer pour un faiseur de miracles. Il ne veut pas passer pour un distributeur de guérison, comme on veut le présenter parfois dans certains milieux. Et les aveugles ont persévéré. Ils ne sont pas restés sur place. Ils l'ont suivi. Et dans la maison, ils ont continué, non pas à harceler, mais à interroger le Seigneur. Ils y tiennent. Ils savent que lui, il peut. Ils savent qu'il est le seul à pouvoir. Et ils ont déjà deux atouts en main. Des conditions que la Bible présente constamment. Ils se savent aveugles, ils se savent malades, ils se savent nécessiteux, ils se savent dépendants de quelqu'un de capable. Monsieur Milon le disait souvent, pour se repentir, il faut savoir de quoi se repentir. Et pour avoir la foi, il faut savoir en qui placer la foi. Un minimum de connaissance de sa condition personnelle et de celui qui peut nous en délivrer. Et ils sont dans cette situation-là. Ils sont convaincus qu'eux-mêmes ne pourront pas s'en sortir et qu'ils ont en face d'eux le Seigneur, le Maître, le Fils de David, le Roi promis. Ils connaissent suffisamment le Seigneur pour lui poser la question. Jésus répond, pas toujours du tac au tac. Parfois, il fait attendre. Il met le sérieux de la demande à l'épreuve, le minimum de persévérance dans ce qu'on veut obtenir. Et puis, il intervient. Je n'entre pas dans le mécanisme de la guérison. Je vois le résultat tout de suite. Tout d'abord, il leur fait une suggestion. Il n'impose rien. Voulez-vous être guéri? Ils ont le choix. Ils ont encore quelques fractions de secondes pour réfléchir. Est-ce qu'il vaut la peine de rester aveugle ou d'accepter de voir clair? Bénéficier du miracle, d'une vue restaurée. La balle est dans leur camp. Dieu ne s'impose jamais. Il offre gratuitement et il attend la réponse ou la réaction. Simplement, l'offre est évidemment alléchante. Pourtant, au moment où ils vont lui dire « oui, on veut », ils ne savent pas ce qui les attend. Ils acceptent. Ils croient Jésus capable. Et tout simplement, ils voient. On a beaucoup discuté pour savoir s'il faut croire pour voir ou voir pour croire. Les deux. Heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Heureux es-tu parce que tu as vu. Le principe est général. Ils virent. Un tout petit verbe. Mais imaginez simplement quelques instants la réalité fabuleuse. Quelques instants auparavant, ils étaient dans le noir. Brusquement, Ils sont dans la lumière. Et qui voit-il en premier ? Probablement Jésus. C'est émouvant. Eux qui n'avaient jamais vu personne, probablement. Je ne sais pas s'ils étaient nés aveugles ou s'ils étaient aveugles par accident, mais sans doute que depuis quelque temps, ils n'avaient plus vu personne. Et là, ils voient Jésus. Et un tout petit mouvement, et ils se voient l'un l'autre. Ils s'étaient parlé, ils s'étaient peut-être touchés, et brusquement, ils se découvrent. Vous imaginez l'émerveillement de ces deux aveugles. Ils tournent encore un peu la tête et ils voient la nature. Nous avons chanté tout à l'heure, contempler les merveilles de Dieu. Ils vont pouvoir les voir. Ils vont voir leurs amis, leurs parents. Et je mets des petits points. Vous pouvez imaginer tout ce que, en un clin d'œil, c'est le cas de dire, ils vont pouvoir découvrir des choses dont ils vont pouvoir jouir. Ils sont heureux, mais désobéissants. Jésus leur dit, n'allez pas le raconter. Alors, n'en faites pas un principe. Dans une autre circonstance, après avoir guéri un démoniaque qui voulait le suivre, Jésus dit, non, ne me suis pas, mais va dans ton quartier, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais ici, ne le dites surtout à personne. Je ne sais pas s'il leur a donné les raisons, pas de publicité tapageuse, avec tous les risques d'être assailli pour ses miracles et non plus pour son enseignement, je ne le sais pas. Mais combien je comprends ces aveugles. Est-ce que j'aurais fait autrement ? Bénéficiaire d'un tel miracle, d'une telle puissance, d'un tel amour, d'une occasion tellement unique, comment ne pas crier sur les toits ce qu'ils viennent de vivre ? Et pourtant, cela ne les excuse pas. Jésus leur a demandé une chose impossible. Gardez le secret. Dans ce cas-là, le premier test de la foi, c'est l'obéissance. Et ils ont mal commencé. Ils ont apprécié le miracle. Oh, je ne leur jette pas la pierre. La question reste d'actualité pour moi, pour vous, pour nous tous. Le vrai test de la foi, c'est l'obéissance. Les aveugles ont découvert en Jésus-Christ le Sauveur, pas encore le Seigneur, à qui on obéit. On accepte ce que le Sauveur donne, pas encore ce qu'il réclame, l'obéissance. Je m'explique un peu quand même. Il y a une transformation en eux, c'est vrai, d'aveugles, ils voient. C'est un peu comme un arbre dont Dieu vient de guérir les racines, mais le temps que la sève atteigne les fleurs et les fruits, il y a un certain temps. La racine est saine, elle est guérie. L'arbre va petit à petit être guéri et le fruit va de plus en plus être beau. C'est ça le principe de la vie chrétienne aussi. Ce qu'on appelle, d'un mot un peu plus compliqué, la sanctification, les progrès journaliers dans la marche avec le Seigneur. Quelques mots de conclusion. Tout simplement, et nous ? Nous sommes-nous regardés et vus tels que nous sommes dans le miroir de la parole, la lettre de Jacques que nous étudions en ce moment ? Nous sommes-nous vus ? Ou avons-nous les yeux fermés sur notre propre conditions. Sommes-nous persuadés d'être désespérément aveugles, perdus, misérables ? Pardon pour le langage un peu religieux que j'utilise, qui est pourtant le reflet d'une réalité bien solennelle. Avant d'avoir rencontré le Seigneur pour de bon, avant d'avoir dialogué avec lui, Pour reprendre une autre parole, Siméon, avons-nous, comme Siméon, vu le salut de Dieu ? En ayant vu Jésus, il a vu le salut. Comme ces aveugles ont vu Jésus. Le Fils de Dieu, le Sauveur et Maître. Prêtons-nous l'oreille à l'exclamation de Jean, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés ». J'étais frappé par ce verbe « voir ». Il avait un sens matériel, corporel, physique pour les deux aveugles. Il en a un profond pour le croyant qui a besoin de se rappeler qu'il était aveugle, même devant l'amour de Dieu. « Voyez quel amour le Père ou Dieu nous a aimés ». Ouvrons les yeux, nous chrétiens, pour voir et revoir constamment l'amour dont que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ sur la croix. Si quelqu'un devait être encore indifférent, je ne peux que l'inviter à regarder Jésus sur la croix, mourant, souffrant, priant pour lui et mourant pour ses péchés. Et puis, comme Barnabas, voyons-nous la grâce de Dieu. J'ai toujours été frappé par cette expression. Barnabas à Antioche, envoyé par l'Église de Jérusalem, quand il vit la grâce de Dieu, il s'est émerveillé. Je fais parfois la fine bouche. Je ne vois pas. Je n'ai pas les yeux suffisamment grands ouverts pour voir l'action de Dieu en moi et autour de moi, chez mes proches, au point d'en être émerveillé. Parce que cette petite transformation est prometteuse de grandes choses. Alors je me dis, patience, mais garde les yeux ouverts sur ta condition, sur ton expérience et sur ce que Dieu fait autour de toi. Seigneur, ouvre davantage les yeux de mon cœur pour que je te voie à l'œuvre en moi et autour de moi.